L'actualité tout autour de la Méditerranée.
1538 Méditerranée. Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Liban, Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur les ondes de Radio Grenouille, l'émission qui tourne son regard du côté de la mer en allant à la découverte de ce qui se passe au Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient et chez nos voisins d'Europe du Sud. Au micro, Colline et Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Comme chaque mois, nous revenons sur les grands enjeux des sociétés méditerranéennes à travers les dossiers traités sur notre magazine d'information en ligne www.1538méditerranée.com et grâce au travail de nos correspondants partout dans la région. La semaine dernière, nous avons publié sur le site un dossier spécial logement indigne autour de la Méditerranée, des articles et des reportages pour informer sur ces situations à Marseille, Istanbul ou Benghazi en Libye, mais aussi pour présenter des initiatives qui pourraient permettre à chacun et chacune de vivre dans un logement sécurisé et sain, avec des exemples à Beyrouth et à Rome. La problématique fait évidemment écho au 5 novembre à Marseille.
Et oui, il est 9h passées de quelques minutes ce 5 novembre 2018 et deux immeubles de la rue d'Aubagne dans le centre-ville de Marseille s'effondrent. 8 personnes décèdent et depuis, partout dans la ville, on évacue des immeubles qui s'effritent, où les fissures sont légion. 40 000 logements insalubres dans la ville, selon les estimations. Des estimations qui ne datent pas du drame, puisqu'un rapport le mentionnait en 2015 déjà, le rapport Nicole. Ce matin, nous recevons Kaouter Ben Mohamed. Bonjour Kaouter.
Bonjour Colline, bonjour à tout le monde. Alors, merci de me donner la parole.
Vous avez créé donc après le 5 novembre l'association Marseille en colère. Pouvez-vous revenir sur les missions de cette association?
Écoutez, au lendemain de cette catastrophe, effectivement au départ nous nous étions organisés parce que nous pensions que nous avions que deux immeubles effondrés à gérer avec un immeuble et demi déconstruit. Et sauf qu'aujourd'hui, nous en sommes à près de 2017 personnes évacuées. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une estimation, c'est un rapport officiel, un rapport d'État qui fait état en 2015. Et malheureusement, on est presque sûr qu'il y en a un peu plus que 40 000 aujourd'hui, qu'il y a 40 000 familles qui vivent dans des logements insalubres à Marseille. Donc, l'émission de Marseille en colère, dont les fondateurs sont les personnes concernées, à savoir les familles de victimes qui sont décédées le 5 novembre dans l'effondrement d'immeubles, les sinistrés dans la rue d'Aubagne, les sinistrés hors rue d'Aubagne et les victimes du mal logement à Marseille, qui au départ, quand elles se sont engagées, étaient juste des victimes du mal logement et qui ont été entre-temps toutes évacuées pour cause de logement plus qu'indigne, puisqu'ils étaient en danger, qu'il y a des arrêtés de péril imminents et graves depuis la création de l'association il y a un mois, qui ont été décrétés par la ville. Donc aujourd'hui, Marseille en colère se veut être un acteur actif, et un interlocuteur actif des pouvoirs publics et des instances de terrain, et elle veut surtout accompagner les initiatives individuelles et collectives, soutenir toutes les personnes qui sont en situation de précarité dans leur logement, qui sont en situation d'urgence dans leur logement pour accéder à un logement digne et se mettre en sécurité physique surtout.
Et les principales difficultés des délogés que vous rencontrez aujourd'hui, c'est quoi?
Écoutez, je vais vous donner un exemple très concret. Ce week-end, à 3h du matin, j'ai une dame qui m'appelle, qui était effondrée, et j'utilise ce terme de manière naturelle, mais qui veut dire beaucoup de choses. Elle était dans sa cuisine à la tablette, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, ses difficultés dépassent largement le périmètre de l'hypercentre et du centre-ville de Marseille. Elle était en train de faire la cuisine comme n'importe quelle maman avec sa fille, avant de dîner. Elle met sa fille à la douche, elle revient, et le plafond s'effondre sur elle. C'est-à-dire qu'à 4 minutes près, il s'effondrait aussi sur la petite de 6 ans. Et elle m'a envoyé une vidéo que j'ai du mal à diffuser depuis que je l'ai, là, depuis 24 heures, parce qu'elle me déstabilise et elle montre l'urgence, si vous voulez, à elle seule. La petite fille, depuis le 9 décembre, sa famille est dans un appart-hôtel, et cette petite fille de 6 ans, tous les soirs, descend de son lit, dort à même le sol et se couvre de coussins parce qu'elle a peur que le plafond lui tombe dessus. Et pour jouer, c'est pareil, sa mère m'a envoyé des vidéos. Elle a mis un carton et elle joue à l'intérieur du carton. Elle met sa tête à l'intérieur du carton parce qu'elle a peur que le plafond lui tombe dessus. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a 2000 personnes qui sont évacuées. Alors tout le monde, hein, il y a des réunions en institution, en mairie, en préfecture. Nous, on a décidé à Marseille en colère de plus y aller, non pas par manque de respect envers ces institutions ou quoi que ce soit, c'est que tout le monde, depuis la première réunion institutionnelle que nous avons eu en mairie, tout le monde, y compris le ministre, qui est venu deux fois à Marseille, se prête à dire que cette situation est unique à Marseille, qu'elle est unique en France. Et qu'aujourd'hui, personne, ni les pouvoirs publics locaux, ni le national, ni la Fédération nationale de l'assurance n'a débloqué de fonds exceptionnels pour répondre à cette crise qui est aujourd'hui sécuritaire, sanitaire et sociale. Et on ne peut pas reloger plus de 2000 personnes sur le compte des impôts marseillais qui ne suffit déjà pas, malheureusement, à répondre aux besoins des Marseillais. Donc tant qu'on n'a pas d'argent exceptionnel, et là je ne parle pas de la requalification, de la rénovation et de la construction nécessaire de logements sociaux. Non, non. Je parle de la prise en charge immédiate de la crise. Demain, ça fera 3 mois que les immeubles se sont effondrés, malheureusement. Et on a de plus en plus de personnes délogées et on n'a pas un centime qui a été débloqué. Donc il est à craindre que si les pouvoirs publics, on a interpellé, nous, par lettre ouverte, le président de la République lui-même, ne prennent pas la mesure de cette situation. Nous, on considère qu'il faut des milliards sur la table et non pas les 600 millions d'euros qu'a annoncé Martine Vassal en convention tripartite entre l'État, la mairie et la métropole. Il faut des milliards sur la table pour combler à toutes ces défaillances, à toutes ces politiques d'abandon qui sont menées depuis plus de 40 ans. Hein, je veux dire, le système Godin, et je ne parle pas de Godin, je parle d'un système, la majorité municipale qui est entretenue, et ils ont reçu un héritage du système de fer qu'il y avait avant. Moi, je suis née dans le bidonville de Marseille, je ne suis pas née en 1995, je suis née en 1977. Donc, et ma mère y était avant. Donc il y a un abandon de la politique municipale, entre autres, au niveau du logement, mais pas que, des populations précaires, des populations populaires, etc., etc., et des quartiers populaires qui datent depuis plus de 50 ans. Et on ne pourra pas pallier à ça s'il n'y a pas des milliards sur la table, mais en même temps que ces millions d'euros sur la table, mais en même temps, nous, il nous semble, parce que justement, on est sur le terrain toute la journée, que la seule chose qui peut mettre en sécurité physique et émotionnelle toutes ces familles qui sont délogées, en plus des 40 000 autres qui vivent dans le mal logement, c'est la réquisition des logements vides et dignes. Parce que si on ne réquisitionne pas les appartements, Monsieur le ministre a fait un effort, on l'a félicité, très bien, magnifique, sauf que comme je lui ai dit quand on l'a rencontré à Marseille, quand il a fait cet effort de négocier 75 appartements qui sont des T1 et des TE sur la rue de la République, on fait comment ? On tire à la courte paille sur 2000 personnes qui est relogée, qui n'est pas relogée. 3 mois après que le ministre du logement débloque 75, ben tout le monde se félicite, ouais, c'est magnifique si vous voulez. Mais à un moment donné, il faut pas perdre de vue la temporalité et l'urgence. 75 appartements T1, T2 sur la rue de la République 3 mois après, c'est largement insuffisant, comme on le lui a dit.
Et justement, voilà. pour vous aider aussi dans ce qui se prépare à être un long combat, hein, finalement, sur ces questions de mal logement, vous êtes accompagné par un pool d'avocats, puisque 3 informations judiciaires ont été ouvertes pour déterminer les niveaux de responsabilité, en fait, dans ces histoires. Et on parle, pour les familles de victimes, de 10 ans d'enquête avant un éventuel procès. Vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui, justement, de ces différentes enquêtes ?
Alors, il faut, voilà, le pool d'avocats, très bien de le dire, les 3 enquêtes qui ont été ouvertes le sont dans le cadre des enquêtes des effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne, et donc ces 3 instructions le sont uniquement dans ce cadre-là. Et ce qui est important à préciser pour tout le reste de Marseille, je veux dire que on a la chance d'avoir, franchement, c'est une vraie chance qu'au-delà d'avoir ce pool d'avocats pluridisciplinaires qui est super compétent, super engagé, super réactif, on a la chance d'avoir 3 juges d'instruction qui sont d'une intégrité. Et franchement, on est super, super contents quoi, de les avoir eux et pas d'autres dans le cadre de cette instruction. Et que, par exemple, on a eu des gens hors périmètre, des locataires hors périmètre de la rue d'Aubagne qui ont été mis en danger par leurs propriétaires, qui sont des marchands de sommeil avérés. Et que donc, le pool d'avocats a aussi fait porter plainte, a demandé aux personnes concernées, à ces locataires, de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, et que de fait, il y a d'autres instructions en dehors de la rue d'Aubagne qui sont aujourd'hui engagées pour protéger la population qui est victime des marchands de sommeil et de l'immobilisme des pouvoirs publics, puisqu'il n'y a des marchands de sommeil en France, enfin à Marseille et ailleurs, que parce que le maire qui a l'autorité d'avoir ce qu'on appelle le droit de police, donc qui a obligation de mettre en sécurité les immeubles qui sont en péril ou qui sont en danger pour mettre en sécurité la population. Donc aujourd'hui, l'instruction concernant la rue d'Aubagne suit son cours. Je cite les avocats, nous n'avons rien à reprocher. Effectivement, c'est une instruction qui va être longue vu les responsabilités qui sont mises en cause, à savoir les pouvoirs publics. Il faut rappeler que le 63 appartenait à la ville de Marseille, via Marseille Habitat, et que le 61 aussi, qui était adjacent, appartenait aussi à Marseille Habitat. Donc, bien sûr, il y a des expertises qui sont en cours. A priori, l'instruction n'est en retard absolument rien du tout. Enfin, tout est fait comme il faut. Enfin, on est super contents. Enfin, je veux dire, il faut rassurer les familles de victimes. Ça va être long, certes, mais c'est bien instruit. Il y a des juges qui sont super compétents et super intègres sur l'affaire. Il y a un pool d'avocats et d'autres avocats, parce que le pool d'avocats n'a pas en charge toutes les affaires de toutes les familles, mais on a 4 sur 8, c'est beaucoup de choses. Et les familles vont être entendues très très bientôt par les juges d'instruction. Voilà, ça je vous donne une exclusivité. Les familles de victimes vont être reçues incessamment sous peu par les juges d'instruction dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire sur leur famille qui est décédée.
D'accord. Et quand vous parliez de réquisition, on sait qu'en ce moment même a lieu le conseil municipal, le premier de cette année 2019 à Marseille. Est-ce que vous avez l'impression que cette requête est entendue? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette réquisition ait lieu?
Cette requête est ignorée par les pouvoirs publics. Ça a été notre première demande. Alors, monsieur le ministre, enfin, moi je cite le ministre parce que quand je cite le ministre, je cite aussi monsieur le maire, monsieur le préfet, madame Vassal, puisque tout le monde se réunit et que c'est lui la plus haute autorité de toutes ces personnes et que c'est lui qu'on a eu comme interlocuteur la fois dernière. Donc, il me dit, madame Belmohamed, vous comprenez, la réquisition, c'est un processus long. Certes, c'est un processus long dans une situation normale. Sauf que je fais écho de ce qu'ils nous racontent tous, en réunion et ailleurs. Cette situation est exceptionnelle et de fait, écoutez, le gouvernement et d'autres nous ont prouvé qu'ils peuvent agir par ordonnance dans l'urgence. Donc aujourd'hui, quand on a, 2000 personnes dehors, plus de 2000 personnes dehors, c'est quand même le résultat. Et c'est comme si on avait un séisme à Marseille. Enfin, je veux dire, quand j'écoute les situations des personnes qui sont concernées, dans quoi elles vivent, comment elles sont, dans quelle situation d'urgence elles sont, dans quelle situation de mal-être psychologique elles sont, c'est comme si on avait eu, et physiquement, on a eu 2 immeubles par terre, qui en général est soit le résultat d'un séisme, soit le résultat d'une bombe qui a explosé sur les immeubles. Donc aujourd'hui, personne ne prend la mesure et on demande des réquisitions exceptionnelles maintenant. Et comme je l'ai dit, et je le dis à grande antenne aujourd'hui parce qu'il y en a marre de se cacher, j'ai été contactée moi début décembre par des familles de la rue d'Aubagne d'ailleurs qui ont été évacuées, d'accord, et qui ne souhaitaient pas passer les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël dans les chambres d'hôtel tout simplement. Et ces familles, parce qu'elles entendent le mot réquisition, mais elles ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc ces familles ont voulu réquisitionner elles-mêmes, parce qu'elles m'ont présenté ça comme ça, elles ont voulu casser les appartements et rentrer dedans. Donc je les ai arrêtées, j'en ai arrêté un certain nombre depuis le 7 décembre, la date à laquelle ces familles m'ont contactée, sauf qu'on ne va pas pouvoir arrêter 2000 et quelques personnes qui veulent se mettre en sécurité. Donc moi j'en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics et des décideurs. C'est-à-dire que nous, associations de terrain, nous, personnes identifiées qui sommes sollicitées par les personnes qui sont concernées par ce drame, on les empêche de casser des appartements et d'y rentrer. Mais on ne va pas pouvoir les empêcher vitam aeternam. Donc je demande au pouvoir public de prendre la responsabilité et d'agir de manière exceptionnelle face à une situation exceptionnelle qui est catastrophique et qui plonge la ville, une partie de la ville, dans une situation d'urgence et de précarité absolue. De prendre leur responsabilité avant que les personnes concernées n'ouvrent des maisons elles-mêmes et ne se mettent encore plus en situation de fragilité, qu'elles cassent peut-être des maisons de particuliers. Enfin, ça peut aller très loin cette histoire. Donc je demande à toutes les personnes qui ont le pouvoir de réquisitionner d'ouvrir les appartements, de mettre ces personnes en situation de sécurité avec leurs enfants, qui ne dorment plus à même le sol, à se couvrir avec des coussins, que ces mamans puissent dormir la nuit parce qu'elles ont... Il y a un enfant qui a fait une tentative de suicide d'un adolescent. Puisque ça fait 3 mois qu'il vit dans un hôtel et que sa maman lui lave les vêtements tous les soirs dans l'évier et que ses copains, c'est cruel les enfants, ses copains se moquent de lui parce qu'il a toujours les mêmes vêtements au lycée. Le petit, il a fait une TS et il ne veut plus aller à l'école. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà ce qu'on entend tous les jours. Voilà la détresse dans laquelle sont plongées toutes ces familles, ces personnes âgées. La semaine dernière, j'ai une dame de 82 ans qui est venue, qui s'est effondrée dans le local de Marseille en colère. Elle pleurait, mais je veux juste un appartement. Elle s'alimente que le midi. J'ai une dame qui est enceinte, qui a été délogée, qu'ils ont mis dans un hôtel dans les quartiers nord. Elle a deux enfants scolarisés à la Joliette. Elle est enceinte à terme. Elle a accouché en urgence il y a 10 jours. Ils lui ont déclenché via une césarienne. Le petit s'est étouffé dans son ventre. Il a failli mourir. Et tout ça est dû au stress lié à cette situation. Voilà dans quelle situation on est quotidiennement. C'est pour ça que la colère reste intacte. Et au contraire, qu'elle grandit. Et c'est pour ça qu'on lâchera pas ces personnes. Et c'est pour ça qu'on est quand même abasourdis, tous acteurs de terrain, là. D'être encore dans une situation d'urgence, d'être encore à gérer une situation d'urgence 3 mois après le début du drame. Il n'y a aucune réaction qui est à la hauteur de cette situation catastrophique. Aucun pouvoir public qui a pris la mesure de cette situation. Aucun pouvoir public qui a réagi comme il aurait dû réagir, chacun par rapport à ses compétences.
On entend votre colère aujourd'hui et on trouve important de relayer cette parole justement. On continuera de le faire au fil des semaines et des mois s'il faut. Et on reconnaît effectivement le travail des acteurs de terrain. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous entendre directement ce matin. En tout cas, merci Kaoter Ben Mohamed d'avoir répondu présente pour cette interview. Et bien sûr, ce sujet restera ouvert sur 1538 Méditerranée tant qu'il le faudra. Merci beaucoup.
On vous remercie parce que le relais est important et comme vous l'avez précisé, ça va malheureusement durer des mois, voire des années. Et il faut que les pouvoirs publics et que les citoyens marseillais entendent, et même au-delà de Marseille, que sur ces 2017 délogés aujourd'hui, il y en aura un dernier. Et qu'on sera mobilisés avec la même force et la même détermination jusqu'au relogement digne de ce dernier. On ne laissera personne au bord de la route. Soyez-en assurés.
Merci, Kaoter.
Merci. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
1538, des clés pour comprendre et agir. 1538méditerranée.com.
Dans notre séquence en direct 2, nous restons sur la problématique du logement précaire et nous tournons nos regards vers la Libye avec Marilyn Dumas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui installée en Tunisie, mais vous avez vécu en Libye pendant plusieurs années en tant que correspondante pour de nombreux médias. Et récemment, vous êtes retournée à Benghazi, dans l'est du pays. Pourquoi vous avez voulu retourner là-bas?
Alors moi, je ne dirais pas que j'ai choisi, que j'ai voulu retourner à Benghazi. Je vais à Benghazi et partout en Libye dès que j'ai un visa. Et c'est surtout la question des visas qui, en fait, dicte un peu mes choix. Donc, comme le pays est divisé en deux autorités, en fait, il faut soit demander un visa du côté de l'ouest, soit de l'est. Et cette fois, je l'ai eu pour aller à Benghazi, donc j'ai pas hésité parce que je n'y étais pas allée depuis avril 2017. Et entre-temps, la guerre là-bas s'était terminée, donc la situation avait beaucoup changé. Donc, j'étais très curieuse de voir comment ça se passait pour les habitants de Benghazi suite à cette nouvelle paix.
Et justement, sur la problématique du logement, quand on a abordé ce sujet, vous avez tout de suite dit il y a une histoire à raconter à Benghazi, puisque en fait, une partie de la ville a été détruite. Et finalement, en fait, aujourd'hui, se pose la question de réintégrer les logements ou pas.
Alors voilà, donc pour refaire un peu de contexte, en fait, ce qui s'est passé à Benghazi, c'est que en 2014, une guerre a éclaté entre les forces du maréchal Haftar et des groupes révolutionnaires alliés à des groupes djihadistes. Cette guerre a duré plus de 3 ans. Donc, comme je vous le disais, la dernière fois j'y suis allée, c'était pendant la guerre. La guerre avait lieu en plein centre-ville de Benghazi, alors qu'à l'extérieur, dans les périphéries, la vie reprenait déjà en avril 2017. Là, quand j'y suis allée, donc, la paix était revenue partout dans la ville. Mais effectivement, les habitants du centre-ville, donc qui était le quartier le plus détruit, car ça a été le dernier quartier à tomber aux mains de Khalifa Haftar, avaient du mal à rentrer chez eux. En fait, c'est très impressionnant quand on marche dans les rues de ce quartier, qui était un quartier historique, en fait, où il y avait beaucoup d'animation, où Nicolas Sarkozy et David Cameron étaient venus fêter la révolution en septembre 2011. Ce quartier est mort, en fait. Il n'y a que des ruines, des bâtiments qui sont dentelés par les tirs et les bombes. Et malgré tout, les habitants, en fait, essayent de revenir chez eux parce que c'est très important pour tout Libyen, en fait, de vivre là où sa famille a toujours vécu, là où il est né. Et puis aussi pour des questions économiques, parce que la situation économique s'est beaucoup dégradée en Libye. Et donc les Libyens ne peuvent plus se permettre, en fait, de louer un appartement à l'extérieur de leur quartier. Donc ils essayent de rentrer chez eux dans leur propriété, sauf qu'en fait, c'est des bâtiments qui sont complètement détruits et ces habitants sont un petit peu abandonnés par l'État puisque l'État est très faible. Donc, ils essayent tant bien que mal d'essayer de réparer leurs appartements comme ils peuvent. Mais moi, ce qui m'a choquée, et c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire cet article, c'était en fait les conditions de sécurité puisque les habitants reviennent dans leurs immeubles et ils refont comme ils peuvent leurs appartements, mais on ne sait pas quel est l'état des fondations des immeubles, s'ils ne menacent pas de s'écrouler, etc.
Effectivement, et d'ailleurs vous parliez de l'impression qu'on a quand on arrive dans ce centre-ville, et c'est vrai que dans les images que vous nous avez transmises et qui sont dans l'article sur le site internet, c'est assez frappant de voir cette ville désertifiée en fait finalement. Et c'est vrai que ce qui est frappant dans les témoignages que vous avez récoltés, c'est justement qu'ils attendent plus rien de leur gouvernement aujourd'hui. Ils ont décidé de rentrer chez eux coûte que coûte, quoi, finalement.
Voilà, alors je dirais que c'est un petit peu maintenant culturel en Libye, c'est-à-dire que les habitants ont conscience qu'avec un État qui est divisé en deux en Libye, surtout donc le gouvernement qui est en charge de l'Est libyen où se trouve Benghazi, finalement c'est un gouvernement qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est un gouvernement qui n'a aucun moyen, aucun budget. Donc en fait, il ne peut pas faire grand-chose effectivement pour les habitants. Donc c'est devenu de toute façon depuis la révolution un petit peu culturel ou disons habituel pour les gens de se dire je ne peux pas compter sur mon État, sur mon gouvernement, il faut que je me débrouille tout seul. Donc voilà, ils s'arrangent pour essayer d'emprunter à gauche, à droite, de demander aux familles un peu d'argent ou alors économiser, faire les travaux petit à petit en fait au fur et à mesure qu'ils ont de l'argent. Et puis, ben, malgré tout, ils espèrent qu'un jour, quand l'État libyen sera un peu plus stabilisé, ils auront peut-être des dédommagements ou enfin quelque chose qui leur permettra de leur rembourser. Mais en attendant, ils ne comptent que sur eux et sur leurs proches.
Et vous, pour en tant que journaliste sur place, comment vous exercez votre métier? Parce que le but, c'est aussi de nous expliquer un petit peu les coulisses du travail de journaliste. Et là, justement, en Libye, on peut se poser la question un petit peu de quelles sont les conditions. Est-ce qu'il y a encore des journalistes qui sont installés en Libye et qui témoignent? Expliquez-nous un petit peu la situation.
Alors, sur les conditions, en tout cas, là, de ce reportage, moi, j'ai été extrêmement surprise parce que la dernière fois que je suis venue, en 2017, quand je suis allée la dernière fois à Benghazi, c'était très compliqué de parler aux gens. On les sentait un petit peu inquiets. Bon, c'était la guerre, en fait. Donc, parler à des journalistes, parler publiquement, c'était forcément d'une manière ou d'une autre, prendre parti, soit dénoncer des groupes djihadistes, soit critiquer un petit peu Khalifa Haftar. Et je sentais dans mes rencontres avec ces gens-là qu'ils étaient gênés, qu'ils n'avaient pas envie de prendre parti, qu'ils attendaient que les choses se terminent. Là, cette fois, donc c'était au mois de décembre, il y a 2 mois, et les gens avaient la parole beaucoup plus libérée. On les sentait plus en paix. Typiquement pour cet article sur la reconstruction, les gens étaient ravis qu'on parle d'eux, qu'on raconte, en fait, qu'on leur donne la parole, qu'on leur laisse exprimer leurs difficultés, qu'on leur laisse parler aussi de leurs espoirs, parce que bien sûr, ils espèrent rentrer chez eux, reprendre une vie normale et bénéficier d'une sécurité comme dans n'importe quel pays. Donc là, cette fois-ci, c'était beaucoup plus facile que les fois précédentes. Mais bon, tout dépend un peu de la situation en Libye. Après, pour répondre à votre question sur donc les journalistes qui sont basés en Libye, alors côté étranger, il n'y a plus beaucoup de journalistes étrangers qui sont basés en Libye. Il n'y a que les agences de presse comme l'AFP ou Reuters, par exemple. De toute façon, moi, quand je suis arrivée en Libye à l'époque, en 2012, il n'y avait déjà pas beaucoup d'étrangers, hein, pour être honnête. Ensuite, il y a quand même les journalistes libyens que je voudrais saluer parce qu'ils font un travail fou. Ils prennent des risques assez forts parce qu'ils sont, comme dans tous les pays, C'est toujours les journalistes locaux en fait qui prennent le plus de risques parce que eux ils sont soumis à des pressions, leurs familles sont soumises à des pressions. Et puis du coup comme on parle de journalistes, je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a un journaliste libyen, un photographe qui est mort à Tripoli il y a à peine 3 semaines je crois. Donc voilà, c'est encore compliqué de pratiquer cette profession en Libye et surtout pour les locaux.
Merci en tout cas de vous témoigner de cette situation. Et puis pour les auditeurs, si vous voulez lire le reportage de Marilyn Dumas et Mathieu Galtier à Benghazi sur cette question du logement, il est sur le site internet www.1538mediterranee.com. Merci Marilyn pour votre travail. Et c'est toujours utile de rappeler quel est le rôle des journalistes. Et comme vous l'avez fait, des journalistes locaux aussi, on en parle trop peu. Merci.
Merci. Au revoir.
Les dossiers 1538 Méditerranée.
Vous êtes bien sur Radio Grenouille avec 1538 Méditerranée. Dans cette dernière partie de l'émission, nous revenons chaque mois sur un dossier traité par la rédaction et qui reste d'actualité. Ce mois-ci, nous souhaitons vous parler de la frontière entre la France et l'Italie. C'est par les chemins de montagne que de nombreuses personnes décident de poursuivre la route de l'exil une fois passée la Méditerranée. Mais le périple est dangereux, d'autant plus en ce moment. Dans sa page Méditerranée, Le Ravi publie ce mois-ci le portrait d'un guide de haute montagne à la retraite que j'avais rencontré à Marseille. Il se nomme Alain Mouchet. Il fait partie de ces guides de montagne natifs de Briançon qui apportent aide et secours aux jeunes migrants en grande difficulté au niveau de deux cols vertigineux. Ces deux cols, le col de l'Échelle et le col du Mont-Genèvre, représentent des frontières naturelles entre les deux pays. On l'écoute.
Alors pourquoi cet engagement ? Eh bien, oui, tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser des personnes en difficulté, dans des conditions difficiles l'hiver avec la neige, des personnes qui sont très mal équipées, qui ne sont pas du tout habituées au froid, qui ne savent pas ce qu'est la neige. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons décidé, aussi suite à l'accident d'un jeune, de Mamadou, qui a eu les deux pieds gelés, et puis de son copain qui a eu les deux mains gelées, ils ont été amputés tous les deux. Donc c'est quand même assez dramatique, des jeunes qui ont 25-28 ans, de se retrouver pour un sans pied, pour l'autre quasiment sans main. Voilà, on ne voulait pas que ça se reproduise, d'où notre implication et notre volonté, véritable volonté d'aider ces gens quand ils arrivent en France. Nous ne sommes pas en contact avec les migrants, contact téléphonique ou autre, hein, on n'est pas en contact. Donc nous, on attend, il y a des gens qui passent, il n'y a pas des gens qui passent. Bon, la dernière fois que je suis allé en Maroc, je suis allé avec ma femme. Et on a rencontré 4 personnes, dont un que j'ai ramené à l'hôpital aux urgences, qui avait deux doigts de la main gauche en partie, enfin la première phalange qui commençait à être gelée, et les deux pouces des pieds qui étaient aussi qui commençaient à être gelés. Bon, c'était pas des gelures très graves, mais on ne les aurait pas récupérés. Ils avaient encore une vingtaine de kilomètres à faire. Je pense que ce garçon aurait vraiment eu une lésion très très sérieuse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben en général, la première chose qu'ils nous demandent, c'est à boire. Ils sont extrêmement déshydratés parce qu'ils ne pensent pas qu'on puisse avoir soif avec autant de neige autour de soi. Donc on a un problème de déshydratation, on a des problèmes de gelure et puis on a des problèmes de mauvais vêtements. En général, ils n'ont pas de gants, ils ont 3, 4, 5 couches de vêtements mais qui n'ont aucune efficacité thermique. Donc on essaie de leur apporter des vêtements, un peu de nourriture à boire voilà, pour les retaper. Et ensuite de là, on les conduit jusqu'à Briançon où ils sont accueillis au refuge solidaire. Qui va d'abord les laisser se reposer et puis leur donner un petit peu des indications sur leurs droits. S'ils ont besoin de rencontrer un médecin. Donc on organise une solidarité d'accueil pour ces migrants donc sur Briançon. Mais il faut bien dire que certains sont partis depuis 3 ou 4 ans et que le passage à Briançon, c'est 2, 3 jours, pas plus. Donc c'est vraiment un tout petit morceau de leur voyage. C'est spectaculaire à cause du passage de ce col. Mais ce qui est très important, c'est tout ce qui s'est passé avant, hein, le départ de leur pays d'origine, tous les problèmes qu'ils ont rencontrés en traversant différents pays difficiles. Et après, le problème, c'est après, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'ils vont avoir droit à l'asile ou pas ? Voilà, comme ils viennent de pays qui ne sont pas en guerre, il est dit que ce sont des migrants économiques, mais migrants économiques, ça ne veut rien dire, parce que la variété de leur situation individuelle est telle qu'on peut avoir rencontré des gens qui, s'ils retournent chez eux, c'est la catastrophe pour eux. Voilà, donc il y a une longue réflexion à avoir sur ce que sont ces migrants économiques et est-ce qu'ils sont réellement des migrants économiques ou des migrants de la misère. Et là, il y a à réfléchir et notre pays a à réfléchir là-dessus et à ne pas renvoyer systématiquement les gens qui ne viennent pas de zones de conflit.
Là, par exemple, c'était de quel pays quand vous parlez de ces personnes qui fuient plutôt pour des raisons économiques ?
Alors, disons que la majorité des gens qui sont arrivés cette année, ce sont des Guinéens. On est à 53-54% de Guinéens. On a après le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire, avec une quinzaine de pourcents. Alors la Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il y a quand même des problèmes de conflits ethniques qui sont quand même assez sérieux. Ensuite, on va avoir le Mali. Bon, le Mali, c'est pas la peine de faire un dessin. Le Sénégal, le Cameroun. Puis après, on a, je crois qu'on a 36 pays d'origine. Bon, certains pays, on n'a qu'une personne. On a quand même beaucoup de gens qui sont des, ce qu'on pourrait appeler des migrations naturelles et normales. Chaque situation est différente de toute façon.
Et la Guinée, pourquoi ils ont fui, ils ont pris la décision de fuir leur pays ?
Ben, c'est parce qu'ils n'ont aucun avenir dans leur pays. Ils ne voient pas d'avenir dans leur pays. La Guinée est un pays qui ne devrait pas être dans l'état où il est. Bon, c'est pas moi de. C'est le premier exportateur mondial de bauxite. C'est un pays qui, sur la côte, a quand même des possibilités d'agriculture qui sont très fortes. Et on a toute la région du nord de la Guinée, la région montagneuse. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu laissé à l'abandon par l'État. Je pars là maintenant au Sénégal. J'espère rencontrer des officiels guinéens pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Mais bon, on le sait à peu près quand même. Hein.
Donc vous pouvez retrouver en tout cas toutes les actions menées par ces défenseurs des droits de l'homme de Briançon sur leur site, le site de l'association Tous Migrants, qui rappelle aussi que des personnes aujourd'hui qui portent secours aux migrants sur cette frontière se font arrêter, questionner par la police française.
Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cet entretien avec Alain Mouchet sur le site www.1538méditerranée.com. Vous pouvez aussi soutenir notre aventure en vous procurant le MOOC de 1538, Une année en Méditerranée, puisque l'information a un coût, celui de la rémunération des journalistes qui travaillent au quotidien pour préparer ces reportages, ces portraits et ces interviews. Toutes les infos sur notre rubrique « Soutenez notre indépendance ». C'est la fin de cette émission méditerranéenne, un partenariat entre Radio Grenouille et 1538 Méditerranée. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Rendez-vous sur 1538méditerranée.com. 1538.